Bonjour et bienvenue au Brunch politique, ici Paul Trey au micro. Aujourd'hui, on vous présente un épisode spécial sur la crise en Ukraine, parce que je ne sais pas si vous le savez, mais on a l'impression d'être un peu sur le bord de la Troisième Guerre mondiale en ce moment, donc on a pensé vous faire un épisode qui nous permettrait d'aller comprendre qu'est-ce qui se passe sur le terrain et aussi d'avoir une vision plus en profondeur de ce conflit qui a lieu en ce moment. Et pour nous aider à tout comprendre ça, on a reçu le chercheur David Dubé de la chaire Raoul Dandurand. En fait, David a carrément fait un mémoire de maîtrise sur la politique étrangère revanchiste de la Russie et aussi sur l'annexion de la Crimée en 2014. Là, si vous n'avez rien compris de ce que je viens de dire, inquiétez-vous vraiment pas, là, on explique tout ça dans l'épisode. Et c'est quand même très intéressant. David nous permet vraiment de comprendre justement toutes les subtilités qui ont lieu en ce moment. Et d'ailleurs, je vais juste dire que je serai seul à l'animation pour cet épisode, puisque Gaëlle a dû s'absenter en fait pour des raisons professionnelles. Cela dit, je vais être accompagné de Thomas qui va être avec moi pour s'assurer que tout l'aspect technique va être très bon. Et bon, sans plus attendre, parce que ça bouge tellement vite, je vais vous laisser écouter ce très bon épisode. Bonne écoute! Bienvenue au Brunch politique, David Dubé.
Merci beaucoup pour l'invitation.
Très content de te recevoir. Puis on te reçoit aujourd'hui parce que on a peur, David. On a l'impression d'être à la veille de la Troisième Guerre mondiale et on est bien inquiet. Donc, en fait, c'est ça, on t'invite pour venir un peu nous expliquer, dépoussiérer tout ce qui se passe en ce moment en Ukraine avec la Russie. Et avant de se lancer directement dans le sujet, on va commencer par... notre fameuse question déjeuner. En fait, la question déjeuner, parce que toi, tu as eu la chance d'habiter en Russie. Environ combien de temps déjà?
Alors, en fait, j'ai habité pendant 6 mois et demi en Russie.
OK, quand même. Puis là, c'est ça, justement, en essayant d'être un peu concept, ce serait quoi un peu le brunch russe, ou en fait, le déjeuner classique à la russe, là?
Ouais, disons que le déjeuner classique, ça va généralement être un gruau assez classique, qui n'est pas très agréable à manger, un peu comme les toasts beurre d'arachide le matin au Québec. Sinon, généralement, il va y avoir les fameuses petites crêpes où on va mettre du lait, comme du lait carnation sucré dessus. C'est vraiment super bon. Puis, évidemment, le brunch, un peu comme en Amérique du Nord, existe. À la différence que la façon peut-être plus fancy un peu, c'est ce sera justement des crêpes avec du caviar dessus, puis un petit verre de vin mousseux. Donc, puis c'est généralement très abordable, donc c'est agréable.
Ah oui, alors le petit verre de mousseux au déjeuner. Ah, c'est quand même cool. Et oui, c'est ça, le gruau aussi, ça, ouais, ça. On retrouve beaucoup ça dans ces pays-là, plus au nord. Mais c'est ça, moi je me demandais, parce que toi, t'as fait une maîtrise, en fait, sur l'Ukraine et la Russie. Et c'était quoi exactement le sujet de ta maîtrise pour les gens qui nous écoutent, là?
Ouais, en fait, je me suis penché initialement là, sur les raisons qui ont poussé la Russie à devenir un État ou une puissance revanchiste. C'est-à-dire un État qui se considère humilié, dans le cas de la Russie, c'est par l'Occident, et qui va chercher en quelque sorte à se venger ou retrouver son honneur perdu, que ce soit vrai ou non. Et puis en deuxième lieu, je me suis penché plus précisément là, sur les raisons qui ont poussé la Russie à annexer la Crimée en 2014.
Oh, OK, ouais, donc t'es vraiment plongé dans le sujet un peu de quoi tu nous parles aujourd'hui, parce que justement, c'est pas très chaud la relation entre la Russie et l'Occident, justement. Et en fait, pourquoi la Russie, en fait? Pourquoi cet amour-là pour la Russie, ou peut-être l'Ukraine, mais j'ai l'impression que c'est plus la Russie. Pourquoi? Est-ce qu'il y avait une raison?
Une excellente question. En fait, c'est arrivé un peu, comme on dit, « out of the blue ». Quand j'étais un petit peu plus jeune, j'avais un amour pour les cultures slaves, puis la Russie plus précisément. Je m'intéresse beaucoup au fait que la Russie, c'est un peu à la frontière entre l'Europe puis l'Asie, de là le terme Eurasie. Puis c'est un amalgame de cultures, là, vraiment, de Moscou jusqu'à Vladivostok. Donc c'est un État très multiculturel, un pays avec des cultures super riches. Puis ça m'intéressait énormément. Puis ultimement, il y a aussi j'ai un attrait peut-être personnel envers la langue russe puis l'apprentissage de cette langue-là.
Ah, OK, mon Dieu, c'est intéressant. Et c'est ça. Ben là, aujourd'hui, comme je disais un peu, Tu viens nous expliquer, parce que c'est quand même, on est en plein dans un conflit qui semble de jour en jour empirer. Là. À cette date d'enregistrement aujourd'hui, mais le Canada a annoncé qu'il allait rapatrier les familles des diplomates canadiens, en fait, au Canada. Donc, c'est une situation où, en fait, on a vraiment l'impression qu'on est sur le bord d'une guerre entre, d'un côté, l'Ukraine. Ben, c'est ce que les médias montrent beaucoup aujourd'hui. D'un côté, l'Ukraine avec l'Occident et de l'autre, ben, la Russie. Mais pour nous aider un peu à contextualiser ce sujet-là, est-ce que tu pourrais nous faire comme un retour historique sur pourquoi c'est compliqué, justement, les relations entre l'Ukraine puis la Russie, tu sais?
Ouais, ben effectivement, pour faire peut-être le lien avec ce que tu viens de nous parler là, avec le Canada, cette situation-là a vraiment déboulé dans les dernières semaines, les derniers jours, c'est-à-dire qu'on avait, il y a quelques mois, on avait des négociations, on voulait se rapprocher, on voulait un peu de prédictibilité dans les relations, puis là maintenant on déboule avec les pays occidentaux et là le Canada qui enlève ses familles de diplomates, donc de plus en plus. Ça semble s'en aller vers un conflit, puis du moins des négociations qui n'aboutissent pas. Puis ça va effectivement être le résultat d'une très longue relation difficile entre la Russie puis l'Ukraine, mais aussi la Russie puis l'Occident. Puis peut-être pour répondre plus précisément à ta question, avec la question hein, les relations Russie-Ukraine, comment ça a évolué? Ben, si on fait un retour dans le temps très, très, très rapide, parce qu'on pourrait remonter à super longtemps, comme l'an 800, mais on fera pas ça. Okay. c'est l'histoire d'une vraiment très longue relation qui est quand même basée sur la domination de la Russie sur l'Ukraine là, dans peut-être 80-90% du temps, bien que les deux États, originalement, s'identifient là, à ce qu'on appelle les Russes de Kiev, ou du moins, ils ont le même héritage culturel à plusieurs égards.
Puis les oui, deux... c'est ça. Et puis, juste avant que tu continues, si je ne me trompe pas, je sais qu'à une époque, l'Ukraine, c'était carrément la petite Russie, c'était même le centre de la Russie, en fait.
Oui, ben, si on veut, c'est ça. L'héritage culturel part de Kiev, puis la question de la petite Russie vient un petit peu plus tard, lors de l'Empire russe. C'est un terme un peu colonial qu'on a utilisé. Puis je vais revenir sur ça avec grand plaisir.
Merci de me reprendre alors.
Puis en fait, l'histoire peut-être plus contemporaine, mais pas tant que ça, vient à la suite des invasions mongoles. En fait, quand la Russie obtient son indépendance, la prend en fait, puis que l'Ukraine ben le fait pas. En fait, l'Ukraine à ce moment-là, c'est partagé entre l'Empire polonais-lituanien, après ça l'Empire russe, donc a vraiment été intégré à plusieurs États différents, plusieurs cultures différentes, ce qui en fait un peu un melting pot culturel aujourd'hui. Puis ensuite, avec son intégration dans l'Empire russe, ben là, il y a eu avec Catherine II, qui est probablement une des monarques les plus connues, ces politiques migratoires-là où on encourageait les Russes à se rendre en Crimée, à se rendre en Ukraine ou en Petite Russie ou en ce qu'on appelait Novorossiya, qui est la Nouvelle Russie, qui est dans l'est et dans le sud de l'Ukraine, pour justement apporter la culture, la langue russe. Puis en même temps, on interdisait l'apprentissage et l'utilisation de l'ukrainien dans les trucs officiels. Donc, à ce moment-là, il était vraiment sous un joug colonial relativement important, ce qui a créé, je veux pas, du ressentiment jusqu'en 1917, lors de la révolution bolchevique, la formation par la suite de l'URSS qui a débuté avec l'Ukraine et la Russie. Puis à ce moment-là, évidemment, ces trucs coloniaux-là, là, d'interdire la langue et tout, sont relativement disparus, puisque la politique de l'URSS était une politique de valorisation des cultures internes, donc des sous-cultures présentes à l'intérieur de l'URSS. Donc, il y a eu quand même une certaine effervescence de la culture ukrainienne. Puis l'Ukraine était, veut pas, un moteur économique très important. Là. Après la Russie, c'était la plus grosse république à l'intérieur de l'URSS. Donc, à ce moment-là, il y a eu quand même une petite accalmie, une relation moins tendue jusqu'à l'arrivée de notre ami ou pas, Joseph Staline. Qui s'est affairé à faire des réformes agraires sans vraiment savoir comment ça fonctionnait, puis qui a causé une famine monstrueuse en Ukraine. Puis ça a mené les Ukrainiens à appeler ça l'Holodomor, en fait, qui est le génocide par la famine. Donc les Ukrainiens reconnaissent pour la plupart que ça a été une tentative de génocide de la part de la Russie envers les Ukrainiens, puis ça c'est revenu dans les discours de plus en plus, notamment dans les mouvements révolutionnaires, puis tout ce qui a amené à la Crimée, puis on en parlera tout à l'heure. Donc la relation s'est vraiment détériorée avec ça. Puis, c'est resté par la suite un peu stagnant jusqu'en 1991 avec, évidemment, l'implosion de l'URSS puis l'arrivée de l'indépendance de l'Ukraine. À ce moment-là, on a une Russie qui est soudainement très gentille pour deux raisons principales. La première étant que l'Ukraine est un moteur économique pour les relations économiques avec la Russie, donc elle ne veut pas nécessairement la perdre, perdre une alliance économique. Puis deuxièmement, l'Ukraine se retrouve avec une forte quantité d'ogives nucléaires sur son territoire et elle est nouvellement indépendante. Donc on veut éviter que l'Ukraine devienne une puissance nucléaire à ce moment-là. Puis on améliore beaucoup les relations. Il y a beaucoup de négociations qui mènent notamment à un mémorandum, le mémorandum de Budapest en 1994 qui dit « Vous nous donnez les ogives nucléaires, vous détruisez les installations ». Vous signez le traité de non-prolifération nucléaire, puis nous, on vous garantit qu'on n'interférera jamais dans votre sécurité. Donc, ça a été signé. Donc, c'était une certaine garantie d'un traité comme quoi la Russie allait respecter l'intégrité territoriale de l'Ukraine ou du moins lui garantir une certaine sécurité.
Si tu me permets, avant que tu continues, c'est quand même intéressant parce qu'on voit que, par exemple, là, on est retourné quand même assez loin pendant longtemps, en fait. Ce qu'on semble voir, c'est que la Russie a un peu comme dominé l'Ukraine et tranquillement, l'Ukraine a eu une forme d'accès, une forme d'indépendance. Puis là, il la gagne peu à peu. Là, on est dans les années 80, si je veux dire, 70-80?
Ah ben, là, à ce moment-là, on est en 91. On est passé les années 90 parce que l'Ukraine est... Oui, exactement.
Mais c'est quand même assez récent, donc, comme cette forme d'indépendance-là de l'Ukraine.
Oui, en fait, l'Ukraine n'a jamais vraiment... eu, presque dans les 1000 dernières années, là, une indépendance formelle, complète, codifiée avec une constitution qui a duré vraiment longtemps pour dire que ça a été un État indépendant. Donc, c'est vraiment un nouvel État, relativement, qui a été formé, puis qui est un amalgame, évidemment, de différentes cultures, là, parce qu'à l'Ouest, on a des Ukrainiens qui s'identifient beaucoup plus à la culture dominante ukrainienne ou encore à des cultures européennes. Tandis qu'à l'Est, on a ces gens qui sont issus des vagues d'immigration russe qui s'identifient comme russophones et beaucoup plus à la Russie, ce qui va d'ailleurs nous mener au conflit dont on va parler tout à l'heure. Puis c'est surtout au début des années 2000 que les relations vont vraiment se ternir, devenir plus difficiles, parce que, veux pas, on a une Ukraine qui commence à quand même s'imposer avec des populations qui ont des opinions divergentes. Puis on en vient, il y a quand même beaucoup de corruption, puis les Ukrainiens décident en fait qu'ils en ont un peu assez. Il y a un mouvement révolutionnaire en 2004, dont on va peut-être parler un petit peu plus tout à l'heure, qui demande finalement, qui est issu du mouvement Orange, en fait, qui dit « Nous, on va réformer les institutions, on va avoir des institutions beaucoup plus démocratiques, plus à l'image de l'ordre occidental. » Puis ça, évidemment, il y a beaucoup de corruption qui arrive à ce moment-là. Puis on voit le candidat pro-russe gagner à l'aide de corruption, ce qui mène à un mouvement révolutionnaire en Ukraine qui réussit en fait à avoir un nouveau vote, une nouvelle élection, qui voit finalement cette coalition-là, orange pro-démocratie, pro-Occident, venir au pouvoir. Mais évidemment, c'est pas sans une ingérence assez importante là, des États-Unis, puis de l'Union européenne, ou du moins des puissances européennes. Donc, à ce moment-là, c'est vu par la Russie comme une tentative, finalement, d'installer un gouvernement anti-russe en Ukraine. Puis la Russie, évidemment, avec ses ressources naturelles, va commencer à cette époque-là à jouer le bras de fer, de dire à l'Ukraine, on va vous mettre des sanctions, on va couper le gaz. Donc, on voit des périodes où, pendant l'hiver, le mois de février ou le mois de janvier, il n'y a plus de gaz en Ukraine, il y a des maisons qui ne peuvent plus chauffer. Donc,
quand même.
Ouais, donc c'est vraiment à ce moment-là que les tensions augmentent vraiment beaucoup parce que la Russie voit son influence disparaître tranquillement, du moins dans une partie de l'Ukraine, puis elle aime pas ça parce que son but depuis 1991, c'est du moins de garder son influence dans l'espace post-soviétique ou du moins de le faire reconnaître par l'Occident. Puis ça, c'est évidemment difficile quand on est un État qui vient d'imploser, qui a des difficultés économiques, qui n'a plus vraiment une armée à la fine pointe de la technologie contre des États-Unis qui sont légèrement au début des années 90 puis au début des années 2000. Donc, c'est à peu près ça pour peut-être un petit recap là, des relations tendues.
Mais là, tu l'as un peu dit rapidement, mais c'est pourquoi un peu les... Mais deux choses. Avant de tomber dessus dans la crise actuelle, là, regarde, c'était vraiment intéressant. T'as bien fait ça, ce recap historique super rapidement. Mais pourquoi, en fait, l'Occident un peu s'implique là-dedans? Pourquoi le Canada est si présent, en fait, en Ukraine? Et là, ben, je vais y aller tout de suite maintenant. Il y a aussi qui est au centre de ça, c'est il y a l'OTAN, en fait, là, qui est. Tout d'abord, pourrais-tu nous définir c'est quoi l'OTAN? Parce que ça, on va en parler beaucoup cet épisode-là, puis je pense que c'est assez central dans ce conflit-là. Là.
Oui, effectivement, c'est très central. Puis pour peut-être donner une définition ou une explication claire, qui n'est pas trop technique, hein, l'OTAN, c'est l'Organisation du Traité d'Atlantique Nord, qui est une alliance militaire stratégique entre des États occidentaux, qui date évidemment de l'époque de la guerre froide. Puis le but assumé de l'OTAN à cette époque-là était de contenir l'élargissement de l'URSS, puis de contenir le communisme de l'URSS pour défendre l'Europe contre de potentielles invasions de l'URSS. Cette alliance-là a survécu à l'implosion de l'URSS. En fait, elle s'est élargie en 1994 à plusieurs pays, puis en 2004. Puis peut-être que l'élargissement le plus important, ce serait celui qu'on a eu des pays baltes, justement, qui est Lituanie, Estonie, Lettonie, qui étaient des ex-États de l'URSS. Donc ça a donné un coup dur, veux pas, à la Russie, parce qu'on est rentré dans son espace. Puis la Russie, en fait, ne veut pas que l'OTAN, du moins que l'OTAN existe, puis que l'OTAN se rapproche de ses frontières, parce qu'elle la voit toujours, avec raison d'ailleurs, comme une organisation qui tente de dissuader, finalement, puis de s'opposer, s'opposer à la Russie en Europe. Puis pour la
mais avant, vas-y. Oui, mais avant, justement, c'est ça qui m'intéresse. C'est quoi cette relation-là, en fait, entre l'OTAN et la Russie, et même de la perspective russe? Parce que, c'est, comme tu disais un peu rapidement, là, c'est que l'OTAN, ça a été un peu créé de base contre la Russie, et là, en fait, contre l'URSS, en fait, qui était l'Union soviétique. Et l'Union soviétique s'est effondrée, mais là, l'OTAN reste toujours là. Et c'est quoi la relation entre la Russie et l'OTAN? Parce qu'aujourd'hui, c'est ça qui est assez central dans le conflit, là. C'est quoi cette relation-là? Comment a-t-elle évolué? Oui, comment la Russie voit l'OTAN?
Ben, c'est une bonne question, parce que les gens ont tendance à penser que la Russie a toujours absolument détesté l'OTAN, tandis qu'en vers la fin des années 80, puis après l'implosion de l'URSS en 1991, on a quand même une Russie qui est très affaiblie, mais une Russie qui veut s'occidentaliser à un certain niveau, qui veut intégrer l'ordre européen, puis sans dire qu'elle va rejoindre l'OTAN, qui dit « J'aimerais que l'on construise un nouvel ordre sécuritaire européen dans lequel j'ai mon mot à dire, dans lequel je fais partie, puis qui n'est pas un ordre qui est dominé par les États-Unis, la France, l'Angleterre, puis l'Allemagne, qui vient nous dicter quoi faire. Ce serait plus un concert d'États, un peu à l'image de l'Organisation de sécurité et de coopération en Europe, qui est l'OSCE, où c'est un petit peu plus collégial, où il y a moins de domination des intérêts occidentaux sur les autres. » C'est un projet d'ailleurs que Gorbatchev puis certains autres occidentalistes en Russie appelaient le projet de Grande Europe ou Greater Europe, qui était opposé au modèle historique d'élargissement de l'OTAN contre la Russie. Évidemment, l'histoire nous le dit, ce projet, ces idées-là n'ont pas porté fruit. Puis les États-Unis notamment ont décidé de poursuivre avec le modèle européen en disant « vous allez finalement vous intégrer à nos mesures ou ce sera rien, en fait, c'est que ça, en élargissant l'OTAN. » Donc, veux pas, les relations ont beaucoup terni à ce moment-là. Il y a eu une petite lune de miel au début des années 90 qui s'est terminée avec l'élargissement de l'OTAN de 1994, mais aussi avec le bombardement du Kosovo en 1999, qui est une opération militaire de l'OTAN, en fait, qui n'a pas eu l'aval du Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc, à la rigueur, aux yeux de la Russie et de plusieurs, c'était une opération militaire illégale. Puis, pour peut-être le contextualiser, là, il y a certains ministres russes à l'époque qui avaient dit que c'était du fascisme ou que c'était la pire invasion depuis l'Allemagne nazie en sol européen. Donc, on peut comprendre le sentiment qu'habitaient les Russes à ce moment-là. Somme toute, en 2001, avec la guerre contre le terrorisme puis l'invasion de l'Afghanistan, on a quand même une Russie qui a collaboré, une Russie avec un nouveau Vladimir Poutine qui venait tout juste d'être élu comme président, qui a énormément collaboré avec l'OTAN en prêtant des informations de renseignement, qui a prêté certaines bases militaires aux forces de l'OTAN puis aux États-Unis, parce que ça coûtait pas mal moins cher de faire la guerre au terrorisme avec les États-Unis, avec l'OTAN, que de la faire tout seul à la maison. Cependant, ça a repris un gros 2 ans, puis l'invasion de l'Irak, pour que tout ça tombe aux poubelles, puis qu'on retourne avec un discours de « Bon, les États-Unis, l'Occident, quand ça fait pas votre affaire, vous faites pareil comme au Kosovo, vous êtes capable de finalement faire fi du droit international, puis d'envahir qui vous le voulez bien, sans demander la permission. » Donc, on est retombé à ce moment-là, dans une grande critique de l'OTAN, qui a été suivie là, l'année suivante par un élargissement encore plus important de l'organisation qui se rapprochait encore plus de la Russie, mais aussi des discussions qui ont commencé à être faites. En fait, c'est George W. Bush qui a simplement dit « Je crois que ça pourrait être intéressant d'élargir l'OTAN à l'Ukraine et la Géorgie », qui, pour les gens qui ne le savent pas, sont, okay. Ouais, sont deux États qui touchent à la frontière russe. Donc, c'est quand même un gros move, comme on dit. Tandis que la France...
Donc, c'est ça. Puis, oui, juste avant que tu continues, parce que c'est un gros move, parce que là, c'est carrément... En fait, l'OTAN qui vient se... En fait, c'est George W. Bush qui dit, nous, on va... Notre organisation qui sert un peu de levier pour un peu... c'est tous les pays occidentaux qui, militairement, se mettent ensemble pour... contre, ben, pas nécessairement contre la Russie, mais comme front commun potentiel contre la Russie. Puis là, ils disent, ben, on va venir à vos frontières directement. Ce qui n'était pas le cas avant, si je comprends bien. Là.
Ben, à l'exception des Pays-Baltes, évidemment, qui touchaient la frontière de la Russie. Il n'y a aucune autre. L'OTAN ne touchait pas ailleurs aux frontières. Puis il y a une petite nuance, évidemment, parce que ça a vraiment été une promesse de Bush qui a dit nous allons faire ça un jour dans un discours. Mais ce n'était pas une promesse de l'OTAN. La France, l'Allemagne, le Royaume-Uni ne voulaient rien savoir de ça parce qu'ils étaient en Europe, ils comprenaient la gravité de ce que ça pouvait représenter pour l'avenir de la sécurité européenne. Donc ils ont fait non, ça n'arrivera pas. Évidemment, Bush s'est retourné, est allé faire un discours. Bon, ça, il n'y aura pas de Membership Action Plan, mais un jour, ça arrivera. Donc,
Là, tu es en train de me dire que les Américains ont juste pitché de l'essence, de l'huile sur le feu partout, puis ils ont mis un peu le feu diplomatiquement, puis après, ils ont fait « Ah non, finalement, on en reparle plus tard ». C'est un peu ça qu'ils ont fait, là, si je comprends bien.
Ben, on peut l'interpréter ainsi. surtout que par la suite... Vladimir Poutine a déclaré, notamment parce qu'on avait, bon, eux aussi, qui a suivi ça, l'indépendance du Kosovo. Puis Vladimir Poutine a dit, sachez que si vous reconnaissez l'indépendance du Kosovo, je vais me donner la liberté de reconnaître l'indépendance de certaines républiques en Géorgie, dont l'Abkhazie et l'Ossétie du Sud, qui sont des régions sécessionnistes. Évidemment, ce qui en a été, c'est qu'ils ont l'Occident a reconnu l'indépendance du Kosovo, la Russie a reconnu l'indépendance de ces républiques-là. Puis on a eu un rapprochement assez rapide et assez important entre la Géorgie et puis les États-Unis, notamment entre George Bush, encore une fois, puis le dirigeant de la Géorgie qui est Mikhail Saakashvili, ce qui nous a mené en 2008 lors de la guerre russo-géorgienne qui est, comme on dit, in a nutshell, une réaction de la Russie à un potentiel rapprochement entre l'OTAN, l'Occident puis la Géorgie à sa frontière pour dire « Ok, ça fait une vingtaine d'années, je suis de nouveau une puissance militaire, je suis capable de faire ça, regardez, ceci est un avertissement. » C'est un peu comme un tir d'avertissement quand on tire par terre, quand quelqu'un essaie de s'approcher de notre terrain, si on est au Texas par exemple. Donc, c'est un peu ça que la Russie a tenté de faire, c'est de dire « Ok, voici une ligne, ça s'arrête ici, vous n'élargissez pas plus loin que ça. Mm-hmm. » Puis, du moins, ça aurait dû servir d'avertissement à l'OTAN, puis à l'Occident de ne pas poursuivre avec, du moins, une certaine ingérence là, dans l'espace post-soviétique, puis dans ce que la Russie considère être sa zone d'influence.
C'était un peu comme un avertissement un peu là, c'est de la Russie de dire ben cherchez-nous pas parce qu'on sait comment répondre.
Exactement. C'est cherchez-nous pas. Pendant 20 ans, on a dû jouer avec vos règles parce qu'on n'était plus une puissance économique, on n'était plus une puissance militaire. Cependant, maintenant on a l'argent, on a les armes, puis on a les effectifs, puis la logistique. Donc vous pouvez plus nous prendre à la légère. Maintenant, on va s'imposer de plus en plus.
OK. Ah, OK. Mon Dieu, c'est intéressant. Puis ça jette bien les bases. Donc ça, vraiment, ça, en Géorgie, ça s'est passé en quelle année exactement, si tu peux...
C'est en 2008.
2008, donc c'est assez récent. Puis c'est un peu ça qui jette un peu les bases sur la crise actuelle qui a lieu en ce moment en Russie. Puis, bon, est-ce que tu pourrais nous dire, là, maintenant, puisqu'on est vite dans le vif du sujet, là, qu'est-ce qui se passe en ce moment en Ukraine? C'est quoi les affrontements? Parce que, bon, là, il y a les Russes qui placent des troupes d'un bord, les Américains qui disent qu'ils sont prêts à mobiliser des troupes, l'Ukraine, mais c'est qui s'affronte en ce moment? Parce qu'il y a des combats armés, si je ne me trompe pas. Là. Puis, est-ce que tu peux nous faire un portrait rapide là?
Si tu me permets, je reviendrai un petit peu dans le temps juste pour... Parce qu'avant de rentrer dans le conflit qu'on a là, peut-être revenir un peu avec ce qui a mené à ce conflit-là, toute la question de l'annexion de la Crimée. Puis tu me ramènes aujourd'hui si je me perds trop loin.
Non, vas-y.
Parce qu'en tout, je parle un petit peu super rapidement de 2004, qui est vraiment le premier mouvement révolutionnaire en Ukraine qui demandait de la démocratie, qui a vu Viktor Yanukovych, là, son nom est assez important, parce qu'il était le candidat pro-russe, il a utilisé énormément de corruption pour gagner l'élection. Finalement, s'est fait tasser par un mouvement révolutionnaire de nouvelles élections qui ont vu son opposant, qui est Viktor Yushchenko, de Viktor, qui finalement est devenu président pendant deux mandats et puis qui a dirigé l'Ukraine. Puis ça a été vraiment une série d'échecs, ces deux présidences. Ça, oui, il y a eu un petit peu moins de corruption, mais ça n'a pas vraiment amélioré les conditions. Ça n'a pas bien été. Le crash économique. On arrive en 2010. On a une élection présidentielle avec, de retour, Viktor Yanukovych, qui est le candidat pro-russe encore une fois. Cette fois-ci, par exemple, il va gagner l'élection de façon légitime. Même d'un point de vue là, occidental, c'était légitime. Cela dit, il va faire il va user de corruption par la suite, là, mais c'est de la corruption risible de film à la Charlie Chaplin. Là. Il va se bâtir des manoirs, des trucs ridiculement... c'est laid, ça coûte cher. C'est tacky, comme on dit. Puis ça va vraiment être digne d'un film de gangster russe, un peu de mafioso. Okay. À un point, c'est ridicule. Puis il y a même des blagues à ce niveau-là qui étaient faites à l'époque en Ukraine. Par exemple, le gars avait un zoo dans sa maison, pour te donner une idée. Donc ça va mener vraiment beaucoup de contestations, beaucoup d'opposition. Puis la flamme révolutionnaire de 2013-2014 va vraiment être allumée, en fait, lorsque ce président-là va reporter la signature d'un accord de libre-échange avec l'Union européenne, qui était vu par beaucoup d'Ukrainiens de l'Ouest, puis à Kiev, comme une porte d'entrée vers l'Union européenne, vers la, en guillemets, modernité, vers finalement plus de démocratie. Et puis ça va vraiment enflammer énormément de manifestants, de manifestantes, qui voient finalement une capitulation devant finalement une intégration économique avec la Russie plutôt, puis la fin, la, en fait l'échec de leur combat. Donc, cette révolution...
Et ça, d'ailleurs, juste avant que tu comptes, me semble que c'était très médiatisant, si je ne me trompe pas, ces manifestations-là, qui étaient même, je pense que c'était sur une grande place publique, c'était particulièrement violent aussi. Hein.
Oui, c'était sur la place de la Maïden, qui s'appelait dans le fond l'Euromaïden, parce que c'était un mouvement révolutionnaire finalement pro-Europe. Mm-hmm. Puis, on en parle un petit peu moins, mais il y avait aussi à ce moment-là des mouvements révolutionnaires qui sont démarrés dans l'Est puis au sud de l'Ukraine, qui étaient pro-russes, en fait, on en parle un petit peu moins parce qu'ils sont...
Okay, ouais, okay.
Mais qui vont notamment être repris par la suite dans le conflit dont on va parler plus tard. Mais oui, le mouvement central à Kiev a réussi à finalement faire quitter. Ça a tellement longtemps d'intensité que les autorités ont perdu le contrôle, puis finalement, Viktor Yanukovych s'est sauvé en Russie, puis a été destitué par le Parlement avec un processus qui était plus ou moins légitime, mais qui a quand même eu lieu. Ce qui a vraiment, à ce moment-là, poussé la Russie à intervenir là, en Crimée, du moins, à supporter le référendum. Puis là, on se rappelle peut-être là, des petits hommes verts en uniforme qui n'avaient pas d'insigne. Donc, par la suite, on a su que c'était des soldats russes. Mais du moins, il n'y a pas eu d'intervention armée où on a tiré sur des gens. Mais il y a eu à ce moment-là une occupation de la péninsule, puis un référendum. Et puis, initialement, ce qui était important de savoir, c'est que le référendum proposait finalement une décentralisation ou une fédéralisation de l'Ukraine, ou que la Crimée devienne reste en fait en Ukraine, si je ne fais pas d'erreur. Puis c'est par la suite de négociations avec l'Allemagne avec les États-Unis, où Poutine d'ailleurs avait dit qu'il voulait garantir l'intégrité territoriale de l'Ukraine, que ça a dégénéré parce que après une discussion avec Barack Obama, on proposait pratiquement, on proposait en fait à Poutine le statu quo ante, qui est en fait, on garde le gouvernement pro-Europe qui est là, tu retires tes troupes, puis on en reste là. Puis aux yeux de Poutine, évidemment, un gouvernement pro-Europe, c'était un gouvernement anti-russe qui venait de tasser son président élu démocratiquement. Donc pour lui, c'était une tentative de coup d'État. Donc le seul calcul évident à ses yeux à ce moment-là a été de dire « Bon ben, quitte à perdre l'ensemble de l'Ukraine, je vais garder la Crimée, puis je vais garder ma position stratégique dans cette région-là, puis dans la mer Noire. Ça va coûter excessivement cher diplomatiquement, militairement, et économiquement, mais ça va coûter beaucoup moins cher que de perdre l'ensemble du territoire et de potentiellement voir l'OTAN venir s'installer dans la mer Noire, dans le sud de l'Ukraine. Au moins, avec cette option-là, je peux garder ma flotte, puis garder une position stratégique. » Donc, c'est très, très brièvement là, ce qui s'est passé pour éviter de passer 4 heures à jaser de ça. Ouais.
Mais c'est intéressant ce que tu disais, parce que ça prouvait un peu que c'était pas dès le départ juste Poutine qui s'est pointé puis qui voulait aller chercher la Crimée. Ça s'est quand même fait. Il y a une forme de jeu diplomatique qui a au final a comme donné, qui a amené Poutine en fait à faire comme ben je prends pas de risque puis j'envahis un peu la Crimée puis je l'annexe. Mais ça, c'est aussi, j'aimerais t'entendre là-dessus. Est-ce que pour toi, le référendum justement qu'il y a eu en Crimée était légitime pour la population? Parce que c'était aussi, j'ai cru entendre souvent dire que c'est des zones quand même assez russophones de base?
Oui, effectivement, là, en Crimée, c'est à peu près 90% de la population qui s'identifie comme russophone avant tout, du moins un héritage russe.
OK.
Puis dans l'Est, c'est un peu la même chose. Cela dit, on ne peut pas considérer un référendum légitime si c'est fait au bout d'un canon avec des chars d'assaut sur le bord du bureau de vote. Mais effectivement, il y a eu des sondages par la suite, il y a eu des sondages avant. Puis le référendum n'aurait probablement pas passé de façon aussi élevée parce que c'était des résultats presque staliniens qu'on a eus. Mm-hmm. Mais selon les « exit polls », entre guillemets, je peux me permettre le terme, puis les différents sondages avant et après, c'était au-dessus de 60% de la population qui supportait l'idée de l'indépendance, puis avant encore plus haut, qui supportait l'idée d'une fédéralisation, puis une décentralisation du pays, qui aurait d'ailleurs pu permettre aux régions russophones de se rapprocher de Moscou, qui faisait le bonheur de Vladimir Poutine, puis qui aurait pu idéalement faire le bonheur de l'Union européenne, qui aurait pu se rapprocher là, des régions qui s'identifient davantage à un héritage européen. Cela dit, c'est pas ce qui est arrivé parce que les trois parties ont quand même voulu gagner à tout prix. Hein. L'Ukraine voulait rester l'Ukraine au complet, puis garder le gouvernement central. Les États-Unis, puis l'Union européenne voulaient garder finalement tout l'Ukraine, puis Poutine n'a quand même pas voulu non plus céder sa part à la fin. Il a quand même voulu garder une partie pour lui.
OK. Ah, mon Dieu. Puis ça, on est en quelle année? Là? Je sais, je te demande toujours ça, les dates, ça me permet de suivre chronologiquement.
C'est excellent. On est en 2014 à ce moment-là, donc on est à la fin de l'annexion de la Crimée, puis au début du conflit dont on va parler, dont on parle dans les médias aujourd'hui, là.
Ben, c'est ça. Justement, allons-y dans ces conflits-là, parce que là, justement, là, on sait exactement ce qui se passe. Et en ce moment, qu'est-ce qui se passe? Parce que en fait, qui s'affronte? Quelle région un peu? Quels sont les groupes? Parce que, bon, d'un côté, il y a la Russie qui masse des troupes. De l'autre bord, ben, tu as tous les pays occidentaux avec l'OTAN qui disent qu'ils sont prêts à intervenir, dont nous, le Canada aussi. L'armée canadienne semble prête à toute éventualité. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire qui se passe en ce moment sur le terrain?
Ben, évidemment, c'est la même chose qui se passe depuis 2014, c'est-à-dire qu'il y a des forces séparatistes qui sont présentes dans l'est de l'Ukraine, qui est la région du Donbass, avec les deux plus grandes villes étant Lugansk et Donetsk, qui ont respectivement là, leurs états autoproclamés, les républiques populaires de Donetsk et Lugansk, avec des forces. Puis ça va jusqu'un petit peu plus au sud de la ville de Mariupol. Et des fois, il y a même certaines personnes qui parlent en ce moment là, que la Russie voudrait envahir jusque dans la ville portuaire d'Odessa, qui va quand même vraiment très loin. Cela dit, là, c'est vraiment des affrontements de ces forces révolutionnaires, pro-indépendance, séparatistes, pro-russes, contre les forces du gouvernement ukrainien. Puis au départ, là, il y a eu quand même deux tentatives de cessez-le-feu entre l'ancien président Petro Poroshenko et la Russie, incluant aussi des diplomates européens. C'est les accords de Minsk 1 et Minsk 2. Ça a amené un cessez-le-feu deux fois qui a évidemment été brisé, mais aussi la fameuse idée dont je parlais tout à l'heure de fédéraliser l'Ukraine puis de voir une décentralisation. Puis jusqu'à tout récemment, le nouveau président ukrainien qui est Volodymyr Zelensky parlait, quand il a voulu être élu, de potentiellement mettre ces idées-là en branle pour finalement pouvoir avoir une résolution du conflit puis arrêter d'avoir des morts en Ukraine, parce que c'est quand même une dizaine de milliers de personnes qui sont mortes. Puis ça inclut, c'est énorme, c'est beaucoup de civils, c'est des millions de personnes de déplacés, donc ça, on en parle beaucoup moins, mais c'est un coût humain qui est énorme, ce conflit-là, qui est finalement une guerre de tranchées depuis 6 ans, puis ça avance pas.
Mm-hmm. Mais ça, c'est intéressant, parce que c'est moi, je savais pas qu'il y avait de près de 10 000 morts. Donc, est-ce que je me trompe en disant qu'en réalité, c'est le même conflit depuis 2014 un peu, qui s'est juste prolongé jusqu'à aujourd'hui?
T'as tout à fait raison. En fait, c'est le conflit qui n'a jamais été réglé. Puis on a d'ailleurs, il y a d'ailleurs un terme dans les études post-soviétiques qui est le frozen conflict ou un conflit gelé. C'est généralement un conflit qui s'arrête, mais qui n'a pas d'armistice ou de cessez-le-feu. Puis c'est exactement ça qu'on voit, c'est-à-dire qu'on a une région séparatiste, il y a des lignes de front, il n'y a plus trop de gens qui se tirent, mais il y a des bombes qui tombent à gauche et à droite, puis on n'a jamais vraiment eu d'arrêt. Puis évidemment, tout récemment, on est arrivé avec une nouvelle hausse des tensions entre notamment la Russie et l'Ukraine, mais là, ça inclut beaucoup les États-Unis, parce qu'on a un nouveau président aux États-Unis, Joe Biden, on a un retour là, de certaines négociations, on a eu des rencontres entre les deux présidents. Puis Joe Biden avait demandé une forme de prédictibilité de la part de Poutine, de la Russie. Puis de demander de la prédictibilité, ben ça implique des coupes, des conséquences. Ça implique que la Russie, ben, va t'en donner. Puis elle va te dire ce qu'elle a envie de faire. Donc nécessairement, c'est ça qu'on a. La Russie est tannée de ça. Elle le dit. Puis elle dit maintenant, bon, ben tu peux. Voici mes termes. Deal avec ça.
OK. Ben justement, tu me permets, c'est qu'est-ce que veut Poutine dans ce conflit-là? Si je demandais, c'est qu'est-ce qu'il cherche là-dedans? Est-ce qu'il cherche à annexer réellement l'Ukraine? Est-ce qu'il va envahir l'Ukraine? Est-ce qu'il veut vraiment partir en guerre? Qu'est-ce qu'il veut, Poutine? Puis, c'est ça, à quoi il joue?
Ben,
à quoi il joue, Poutine?
Poutine, depuis qu'il est élu au début 2000, il joue au même jeu. Puis ça s'appelle « Respecte mon hégémonie dans l'espace post-soviétique ». Puis l'Occident n'aime pas ce jeu-là, mais c'est quand même assez simple. Moscou veut qu'on reconnaisse l'intérêt russe, c'est ce qui prime dans cette région-là, puis qu'aucun autre État ne peut rivaliser avec la Russie dans cette région-là. C'est tout simplement que ça a pris 30 ans à tout le monde pour comprendre, puis que là, on est avec une Russie qui, comme je disais au début, puis dans mon mémoire, là, qui est activement revanchiste, qui a les moyens de s'imposer, puis qui veut plus rien savoir, finalement, de trouver un terrain vraiment d'entente. Là, les négociations, ça a été assez rapide, ça a été retrait, finalement on veut un traité officiel qui dit que l'OTAN ne s'élargira jamais ou rien. On parle pas de petits encadrés, de petites notes en bas de page qui dit ok, mais on pourrait peut-être avoir ça, réduire des troupes par-ci, non, c'est ça ou rien. Donc on se retrouve vraiment là avec Vladimir Poutine qui est tanné puis qui veut qui,
c'est ça. Ça. Puis comme tu dis un peu, c'est que aussi maintenant, il y a un peu les moyens de le faire. Il se laisse plus faire, puis il est capable de montrer les bras. Puis ça prouve pourquoi aujourd'hui, c'est... Ou en fait, on en parle autant, où Poutine est un peu vu comme l'ennemi numéro un mondial. Mais pourquoi, en fait, puisque justement le conflit dure depuis 2014, puis ça n'a jamais réellement arrêté, en fait, pourquoi tout récemment, c'est redevenu d'actualité? Puis là, en fait, depuis 2 semaines, de jour en jour, ça change. Puis bon, on préparait l'épisode, puis je t'envoyais des articles, David, puis on s'en parlait. J'étais comme ça, évolue avec une vitesse grand V. Mais pourquoi, en fait, tout récemment, c'est redevenu d'actualité? Est-ce qu'il y a un événement? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose?
Ben, évidemment, quand on parle de l'OTAN, c'est comme 80% de négociations avec les États-Unis. Veux pas, on a depuis relativement récemment un nouveau président. On a eu un sommet entre Joe Biden puis Poutine. Et puis, on a eu surtout Joe Biden qui a eu beaucoup de difficultés dans son retrait de l'Afghanistan. On a des États-Unis qui ont dit on veut un peu délester L'OTAN en Europe, on veut se concentrer sur la Chine, sur la région Pacifique, sur des questions comme l'Iran, parce que puis c'est pas qu'un choix parce que ça nous tente, c'est parce que les États-Unis n'ont plus les moyens de jouer à la police de l'entièreté de la planète. Ça coûte trop cher. On n'est plus dans les années 90. On rivalise avec la Chine qui est une superpuissance, la Russie qui est une superpuissance. Donc on peut pas jouer sur tous les tableaux puis penser gagner. Donc, Poutine n'est pas étranger à ça. Il sait qu'en ce moment aussi, ça va pas bien dans les sondages pour Joe Biden, qu'une entente, là, un traité finalement qui dit que l'OTAN ne s'élargira pas, ça passera jamais au Congrès américain, mais jamais. Et puis que l'opinion publique ne veut pas voir des soldats américains déployés en Ukraine puis mourir potentiellement sous les balles de soldats russes ou sous des bombes de révolutionnaires séparatistes pour Russie. Donc, qui sait qui met Joe Biden dans l'embarras, puis qu'à la rigueur, Joe Biden a potentiellement deux choix, d'accepter ça, puis d'ouvrir la porte à un précédent, ou finalement de dire non, puis de dire, bon, ben, je leur ai laissé le choix, maintenant, je peux bien envahir si je veux, il y avait juste à vouloir négocier avec moi. Donc, qui sait que Joe Biden est vraiment pris dans un coin, tandis que du côté de Poutine, ben, en ce moment, ça va relativement bien. Il y a un bon contrôle sur sa politique intérieure. Évidemment, il utilise de plus en plus de corruption. Cela dit, il y a quand même relativement peu de contestation interne à sa politique étrangère parce que les gens qui critiquent sont davantage concentrés là, sur des enjeux de politique intérieure. Un peu la même chose aux États-Unis.
On s'entend que quand tu critiques, on l'a un peu vu récemment en Russie, quand tu critiques, ben ils font rarement très long feu là, pour remettre en question Poutine, j'ai oublié son nom, Loutchenko.
Loukachenko, c'est le dirigeant du Bélarus, mais c'est Alexei Navalny qui est en prison dans des conditions médiocres, soit dit en passant, présentement.
Ben, c'est ça. Donc, ben, parfait. Là, tu nous expliques justement qu'est-ce qui se passe. Et maintenant, je voulais un peu aller dans à quoi on peut s'attendre, en fait. Là, on le sait que ça semble être particulièrement tendu. Là, ça évolue de jour en jour. Est-ce que, selon toi, un conflit armé est possible? Est-ce qu'on devrait s'inquiéter de voir ça tourner en une forme de guerre mondiale, comme la style de la Troisième Guerre mondiale? Est-ce qu'on peut s'inquiéter de ça de façon rationnelle et légitime ou on capote, là?
Avant d'entrer dans les détails, évidemment, une troisième guerre mondiale qui inclut juste l'OTAN puis la Russie, c'est pas vraiment une guerre mondiale. Ça inclut pas la Chine et d'autres grandes puissances, donc on peut du moins, on peut arrêter d'être eurocentriste puis se dire que ça arrivera pas à ce niveau-là. Mais je peux comprendre les inquiétudes des gens par rapport à ça parce que les médias occidentaux brasse énormément la soupe de la discorde puis d'un conflit. On dirait presque que certains médias, là, puis certains éditoriaux veulent un conflit. Ce qui est probablement pas la bonne ligne directrice parce que bon, c'est pas tous nos élus qui sont des experts de politique extérieure. Donc c'est pas nécessairement la meilleure chose qu'un paquet de gens dans un parlement lise des articles vote en guerre. Cela dit, si on était il y a quelques mois, il y a quelques semaines, je dirais que il y a potentiellement peu de chances pour un conflit armé. Puis là, plus ça va, plus j'ai l'impression que du moins Poutine est prêt à le faire parce qu'il y a absolument, il y a aucune volonté de collaboration sur ces enjeux-là du côté américain, c'est-à-dire qu'on veut pas enlever l'idée selon laquelle n'importe quel État peut rejoindre l'OTAN. On veut pas bouger sur ça, puis on est simplement prêt à dire, par exemple, bon, on pourrait réduire notre présence ou nos opérations à certains endroits, mais on est davantage prêt à fournir l'Ukraine en armes, puis en financement, puis en informations stratégiques s'il advenait d'une implication, puis d'une agression de la Russie sur son territoire. Puis du côté de la Russie, de plus en plus, Poutine semble jouer la carte de la diplomatie d'une façon un petit peu plus instrumentale, c'est-à-dire que en 2014, dans la Crimée, puis durant les négociations du conflit au Donbass, les accords de Minsk 1 et 2, on voyait quand même une bonne volonté de la Russie, c'est-à-dire non, on prônons une fédéralisation, décentralisez l'Ukraine, laissez-moi avoir une influence sur le pays, puis laissez les Ukrainiens occidentaux finalement faire un peu ce qu'ils veulent, puis il y aurait même moyen de faire fonctionner mon accord économique avec l'accord économique européen tant qu'il y a des garanties où il n'y aurait pas entre guillemets, là, du dumping économique en Russie qui ferait mal à notre économie. Cela dit, on n'est vraiment plus dans ce discours-là. Puis il y a même certains journalistes là, qui étaient présents à Genève qui semblaient dire que les diplomates russes n'étaient pas vraiment prêts. Puis que ça semblait plus être « bon, on va jeter ça sur la table, c'est pas de temps ou rien », parce qu'on sait un peu très bien que les États-Unis n'accepteront jamais de signer un accord formel. Puis ça va nous donner finalement un casus belli là, ou une raison d'aller en guerre puis d'envahir la Crimée. Cela dit, je suis quand même assez surpris là, que la Russie voudrait faire une invasion complète sur le territoire parce qu'elle a quand même une bonne puissance en termes de campagne de désinformation, de cyberattaque, à laquelle en fait l'Ukraine n'est absolument pas capable de répondre. L'Ukraine n'a aucune capacité ou presque à ce niveau-là, même si ses forces armées depuis quelques années ont gagné de l'expérience à combattre avec des forces séparatistes pro-russes. Cela dit, là, ça serait quand même toute qu'une paire de manches de faire une opération de cette envergure-là, puis ça resterait quand même probablement la plus grande guerre en sol européen depuis la Seconde Guerre mondiale, si je ne me trompe pas. Si on parle du nombre de morts qu'il y a déjà, du nombre de morts qu'il va y avoir, puis du nombre de soldats. Peut-être pour finir sur ce à quoi on peut s'attendre, là, la réaction américaine de dire on a préparé 8500 troupes, c'est probablement pas ce que j'aurais conseillé si on voulait désamorcer, mais Joe Biden a vraiment changé de ton. Il a passé beaucoup de on va négocier, on veut pas de guerre, c'est pas ma stratégie à non, ben finalement, je suis prêt à y aller. Il est passé de colombe à faucon, si on veut utiliser des termes de politique étrangère, ce qui n'est pas nécessairement à l'avantage d'une résolution de conflit. Parce que Poutine peut plus aisément jouer entre ces deux positions-là parce qu'il y a un peu un pouvoir absolu, parce que la Russie n'est pas une démocratie, tandis que Joe Biden peut essuyer des coups politiques pas mal plus importants en décidant de faire ça. Donc, c'est pas nécessairement à l'avantage de personne. Puis, s'il y a un conflit de ce type-là en Crimée, si on pensait qu'on avait perdu des points diplomatiques en 2014. J'espère qu'ils vont attacher leur truc avec de la broche parce que là, ça va être le revanchisme, mais le revanchisme pas à peu près du côté de la Russie.
Mm-hmm. Mais ça, c'est puis ça t'amène pas mal à ça. C'est qu'on j'ai l'impression que même si tout dépendant comment ce conflit-là va évoluer, mais j'ai l'impression que tranquillement, on ben en fait, c'est ça. C'est sommes-nous dans l'antichambre d'une nouvelle guerre froide? C'est ça. Est-ce qu'on est en train de mettre la table à le retour de ben, c'est ça, d'une guerre froide en Europe, mais même tranquillement qui peut, on le sait très bien, qui peut après s'élargir dans le monde?
J'aime pas personnellement le terme guerre froide parce que bon, ça a quand même un contexte historique où on avait deux superpuissances qui avaient des idéologies différentes qui étaient diamétralement opposées surtout. Tandis que la Russie puis les États-Unis, c'est deux États capitalistes. C'est plus un ordre bipolaire. On est dans un ordre qui est de plus en plus multipolaire où les États-Unis ne sont plus la superpuissance, mais une superpuissance parmi tant d'autres. Donc, c'est un conflit entre la Russie puis les États-Unis, mais il y a la Chine qui existe encore, il y a l'Inde, il y a les autres BRICS qui deviennent de plus en plus puissants. Il y a la question de la Corée du Nord, il y a la question de l'Iran. Donc, j'ai un petit peu de difficulté à calculer ça comme un conflit idéologique, ouvert, armé, très clair. Puis, il y a beaucoup de chercheurs dans le domaine de la politique post-soviétique qui parlent du concept de paix froide. Plutôt, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de conflit officiel comme au temps de la guerre froide, mais le contexte d'animosité est toujours présent. On a gardé en fait les comportements du temps de la guerre froide dans l'ordre post-guerre froide avec une Russie qui joue le rôle de la victime humiliée qui veut obtenir sa revanche contre des États-Unis dominants qui ont pas vraiment gagné la guerre froide mais qui jouent comme s'ils avaient gagné la guerre. Puis ça crée évidemment un contexte pour beaucoup de divisions, beaucoup de contestations, mais aussi des conflits comme on voit là, des guerres de tranchées dans l'est de l'Ukraine qui avancent pas, des campagnes de désinformation, de l'ingérence électorale dans les élections russes, dans les élections américaines, puis des campagnes de cyberattaque à gauche, à droite. Donc C'est pas. Finalement, en fait, la Russie, qui distingue ça du climat de la guerre froide, peut-être, c'est que la Russie ne veut plus finalement dire on va renverser l'ordre américain, l'ordre, tu sais, la question de la souveraineté, des normes internationales. La Russie veut plutôt que ça soit plus dominé par les États-Unis, puis que ça soit dominé finalement par une oligarchie d'États puissants qui s'entendent et où tout le monde aurait un droit de veto. Finalement, ça serait un peu comme si c'était juste le Conseil de sécurité qui décidait de tout. À ce niveau-là, donc ça serait plus ça. Donc c'est un peu difficile de coter ça comme une guerre froide, mais c'est vrai que ça peut laisser paraître un retour à ça.
J'aime beaucoup ton expression de paix froide qui est un peu. Tu expliques un peu que c'est ça, c'est vraiment une grosse relation. Je vais, sans vouloir être trop vulgaire, mais c'est un peu une grosse relation de marde entre la Russie et les États-Unis, puis c'est, sensiblement, ça va rester de même. Et d'ailleurs, ça me permet de passer à la prochaine question. C'est souvent les États, ben les États-Unis, mais tous les États de l'Occident utilisent beaucoup l'argument des sanctions économiques qui sont supposées, qui sont un peu comme l'épée de Damoclès au-dessus de la tête de la Russie, mais est-ce que les sanctions économiques sont si dangereuses ou se font si mal à la Russie? Est-ce que c'est vraiment un argument si coup de poing de ça? Parce que, bon, ça ne semble pas complètement arrêter les Russes. Là. Ils ne semblent pas complètement s'écraser devant ces menaces-là.
Ben, tu as absolument raison dans la première partie de ta question, en fait, où tu dis que finalement, c'est juste c'était juste une poursuite de cette relation de marde, comme tu dis, entre les deux États, parce qu'il n'y a jamais eu justement il n'y a jamais eu d'ordre post-guerre froide qui a été créé. On a juste reproduit le comportement dans cet ordre-là. Donc les mêmes rôles sont restés, les mêmes comportements sont restés. Ça s'est juste intensifié jusqu'à ce qu'on a aujourd'hui. Donc tu as absolument raison. Maintenant, pour transitionner à la question des sanctions, effectivement, elles sont de moins en moins efficaces. Parce qu'on a une Russie qui en a depuis plusieurs années. Puis Vladimir Poutine a quand même un contrôle absolu, ou presque, sur le fonctionnement politique. Donc, a réussi à mettre des réformes en place pour devenir de moins en moins dépendant des secteurs qui sont touchés par ces sanctions-là. Notamment le secteur agraire, puis la production de biens de base, de biens plus essentiels, est de moins en moins, de plus en plus autosuffisante en Russie. On est de moins en moins dépendant de l'Europe. Puis pour les produits qui sont pas nécessairement faciles à produire ou qui sont pas de bonne qualité en Russie, on peut s'approvisionner en Chine, en Asie ou même en Afrique parce que la Russie a vraiment fait un pivot vers ces régions-là pour être en mesure de dynamiser son économie puis d'être moins atteint par les sanctions. Cela dit, pour avoir habité en Russie à un moment où il y avait des élections, de la corruption, les sanctions, ça fait mal. Le rouble vaut jamais la même chose à chaque semaine. Une journée, j'étais pas mal plus riche. L'autre semaine, j'étais un petit peu plus pauvre. Donc, puis à tous les jours, c'est l'œil, la russe moyenne qui paye la facture de cette politique-là, de cette politique de grande puissance qui se fout complètement, finalement, des Russes qui s'appauvrissent à tous les jours. Donc, à ce niveau-là, C'est pas Vladimir Poutine et sa clique d'oligarques qui paient la facture, même si c'est eux qu'on vient toucher en bloquant l'accès à des banques, bloquant l'accès à des investissements, mettant des taxes sur les biens, puis en dévaluant le rouble. C'est vraiment monsieur, madame, tout le monde là, qui est touché par ça.
C'est intéressant. Ça. Oui, c'est ça. Donc oui, Poutine peut dire publiquement que ça va bien, mais en réalité, les sanctions économiques font encore mal à la population. Mais en réalité, c'est que Poutine a tellement une main de fer sur le pouvoir qui est centré. Cela dit, je me permets une petite blague en disant, tu parlais de Poutine qui avait enfin réussi la révolution agraire. Bon, pour ceux qui connaissent bien l'histoire de la Russie, c'est quand même drôle. C'est une grande chose qu'aura réussi Poutine, c'est qu'il aura enfin réussi la révolution agraire en Russie. Bon, je me permets la petite blague. Mais justement, là, on arrive sur les dernières questions, puis je voulais te demander, selon toi, une hypothèse de comment ça va finir ce conflit-là. Et après, ma question, ce serait, je te la pose tout de suite, c'est selon toi, quelles seraient des pistes de solution d'une bonne sortie de crise, justement, pas nécessairement selon les intérêts russes ou les intérêts américains ou de l'OTAN, mais disons, pour les intérêts de l'Ukraine, qu'est-ce que ça serait quoi la meilleure des solutions possibles? Donc, premièrement, pour toi, comment ça devrait finir si on est plus dans le real politique? Comment, selon toi, ce conflit-là va terminer?
Puis, malheureusement, pas super optimiste. Pas parce que j'y crois pas, mais parce que je crois pas nécessairement aux dirigeants des négociations qui sont nécessairement de bonne foi. En fait, je pense que les habitants, les pauvres habitants de la région du Donbass sont malheureusement pas terminés de mourir pour une guerre qui est vraiment inutile, entre des dirigeants qui veulent juste gagner l'absolu, finalement, qui veulent tout ou rien. Puis c'est pour finalement quelques centaines de kilomètres sur une carte que personne regarde. Donc c'est assez dommage. En fait, c'est terriblement dommage. Cela dit, la première hypothèse que je vois serait bon, le scénario dont tout le monde parle dans les médias, là, une impasse dans les négociations qui verrait une grosse montée des tensions, comme on le voit là. Les États-Unis qui poursuivent un refus de ne pas élargir l'OTAN, puis qui promettent comme seule alternative des troupes américaines prêtes à être déployées, puis du financement militaire pour l'Ukraine, avec Poutine qui n'ouvre pas non plus son jeu, puis qui dit ben moi, c'est aussi que ce que je vous propose, puis sinon je vais continuer à augmenter mes forces à la frontière. Évidemment, si tout le monde joue ce discours de sourd-là, puis utilise juste la partie performative puis théâtrale des négociations pour se donner bonne conscience, ben nécessairement, on aboutira à rien, à l'exception d'un potentiel conflit armé encore plus augmenté, puis une potentielle annexion là, du Donbass par la Russie. Il y a évidemment un potentiel où ça pourrait peut-être être désamorcé. On pourrait peut-être, Joe Biden pourrait changer son fusil d'épaule puis dire « Ok, on préparera pas des troupes, on va réduire les exercices. » Puis Vladimir Poutine pourrait peut-être dire « Ok, on va renoncer à ça, cette demande sur l'OTAN, mais il va y avoir d'énormes concessions qui devront être faites. » Puis là, on va peut-être être capable d'avoir des négociations à porte close où tout le monde peut garder, entre guillemets, son honneur puis pas avoir l'air d'un perdant. Parce que visiblement, c'est à ça qu'ils jouent en ce moment avec les négociations publiques à Genève. Là, c'est devant le public, puis on veut avoir l'air de l'homme fort parce que c'est ce qui est important. C'est que c'est important à la maison pour le support politique, puis on veut pas laisser l'autre gagner sur nous. Cela dit, peut-être une piste de solution finalement là, qui pourrait vraiment régler serait évidemment une ouverture de Volodymyr Zelensky, qui est le président de l'Ukraine, qui au départ avait un certain support pour l'idée d'une fédéralisation de l'Ukraine, puis qui maintenant a jeté l'idée aux poubelles, puis qui veut garder l'intégrité territoriale, parce qu'évidemment c'est bon pour le vote, hein, c'est bon pour le support à l'Ouest, de dire qu'on laissera pas les satanistes séparatistes tuer nos enfants, tuer nos femmes, puis tuer nos familles. Donc, si cette idée d'une décentralisation de la politique ukrainienne, du système politique ukrainien, puis des différentes régions venait à être mis de la table de façon véritable par Zelensky, elle pourrait potentiellement être reprise par les dirigeants et les négociateurs de l'Union européenne qui sont aussi favorables à cette idée-là. Parce que ça avait été notamment poussé par ces personnes-là durant le début du conflit. Puis par la suite, ça pourrait potentiellement être repris par les États-Unis et ou la Russie, parce que initialement c'était avant l'annexion de la Crimée, puis même durant les négociations avec dans la crise au Donbass, c'était une proposition là, pour laquelle Vladimir Poutine puis la diplomatie russe n'était pas complètement froid. Je vois pas un scénario. En fait, en ce moment, c'est vraiment un jeu à somme nulle, c'est-à-dire la Russie prend la région ou les États-Unis puis l'Occident gagnent. Donc, c'est vraiment... on fait un conflit où on fait absolument rien, tandis qu'il y a quand même un pas pire monde de négociations entre les deux. Puis, bon, je suis pas ukrainien. C'est pas à moi de dire à ces personnes-là quoi faire, mais c'est un peu comme... c'est une fédération qui fonctionne pas quand il y a une partie qui se dit « Moi, je m'identifie à un autre pays ». Puis l'autre partie s'identifie à un autre héritage, puis qui sont prêts à prendre les armes pour venir dire à l'autre qu'ils sont pas d'accord, ben il y a peut-être un moment où c'est plus nécessairement à l'avantage d'avoir la même structure politique qui nous force à habiter ensemble, puis à être sous le joug de la même personne à Kiev. Finalement, il y a peut-être moyen d'avoir un système plus décentralisé qui permet aux individus, puis aux régions, puis aux différents sous-groupes, sous-cultures, là, de se diriger par elle-même. Si on veut, c'est peut-être, pour faire un parallèle un peu boiteux, C'est peut-être le conflit référendaire et indépendantiste du Québec à la puissance 1000. C'est à la base des gens qui ont une identité, qui s'identifient différemment, puis dont les tensions sont exacerbées à la puissance 1 million pour en venir à en faire un conflit armé qui est en plus financé par des grandes puissances des deux côtés. Donc ça donne ça, puis on n'aura pas de solution agréable sans que les groupes décident de mettre de l'eau dans leur vin, parce que sinon ça va mal se terminer.
Eh bien, ben merci beaucoup, David. Mon Dieu, ben, je finirai ça là-dessus, sur cette bonne note. Écoute, on peut espérer peut-être une résolution de conflit pacifique avec... écoute, peut-être, je dirais, souhaitons le mieux pour les Ukrainiens, mais merci beaucoup, David. C'était vraiment intéressant, mon Dieu.
Ben, merci beaucoup pour l'invitation. Puis moi aussi, je souhaite le meilleur pour la population ukrainienne, puis l'ensemble des populations visées par ça. Puis on va espérer que les dirigeants des grandes puissances vont arrêter ce jeu à somme nulle et essayer de trouver des solutions, parce que je pense que personne ne veut la guerre, bien évidemment.
Ouais, exactement. Ben, merci beaucoup. Merci.